Aujourd'hui, je reçois Marc Fiorentino.
C'est pas moi qu'il fallait inviter si tu voulais parler ESG. Je pense qu'il y a une énorme hypocrisie. Ça revient avec des gens qui vont prendre leur bagnole et mettre de l'essence. Et ils pensent que l'essence, elle sort de...
Tu veux magique ?
Bah oui.
Ancien trader star, il a travaillé en salle de marché dans les plus grandes banques américaines pendant 20 ans.
T'as l'aberration totale. On voit des gens qui vont, je sais pas, pendant des heures chercher le meilleur forfait mobile. Et qui, à côté de ça, qui vont continuer à ouvrir un contrat d'assurance vie gaiement dans lequel t'as 3% de frais d'entrée, 3% de frais sur versement. Allez-y, c'est la fête du slip et tout le monde se fait complètement plumer.
Il a ensuite été, et l'est toujours, le pape de la finance française avec ses émissions, ses livres best-sellers.
Ah, la vie est trop courte. Ben non, la vie n'est pas trop courte maintenant. On vit à 85 ans. Tu peux plus dire ça. Comment tu finances un tiers de ta vie à la retraite ? C'est pas l'État qui va payer. C'est pas des jeunes comme toi ou des gens qui sont encore plus jeunes que toi qui vont accepter indéfiniment de savoir que eux n'auront pas de retraite, mais qui vont cotiser aujourd'hui pour payer ma retraite.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, épisode exceptionnel puisque je reçois Marc Fiorentino, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. On va revenir avec lui sur les 10 dernières années. Il a écrit de nombreux livres dans lesquels il a fait des prédictions. On va faire le bilan et vous allez voir que ça va déménager puisqu'il s'est pas beaucoup trompé. Ensuite, on va sortir la boule de cristal et on va regarder ce qui va se passer dans les 10 prochaines années ou ce qui pourrait se passer pour que vous puissiez au mieux préparer votre avenir. Les trois grandes thématiques qu'on va couvrir sont les retraites, la banque et l'immobilier. Bref, les sujets dont on parle tous les jours. En 2012, tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Sauver votre retraite ». En gros, tu expliques que le système des retraites n'est pas tenable sur le long terme à cause des changements démographiques qui sont en train de s'opérer.
Exact.
Et que du coup, les Français devraient s'inquiéter pour leur retraite, d'une part, et d'autre part, de prendre en main leur patrimoine pour, quelque part, avoir les outils dont ils vont avoir besoin. Ça, c'est une croyance qui s'est généralisée maintenant. Malgré les réformes des retraites, de moins en moins de personnes ont confiance et croient qu'ils auront effectivement une retraite. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ?
Oui, on a raison d'avoir peur. Alors après, le mot peur, je l'aime pas trop parce que j'aime pas le côté un peu sensationnaliste. Et puis on nous ment et on nous raconte des bêtises. C'est pas ça l'idée. Hein. L'idée, c'est simplement de dire prenez un calcul d'un gosse en primaire. Il y a de moins en moins de naissances, on en parle tous les jours. Quand on a conçu le système des retraites, l'âge de la retraite était à 65 ans, l'espérance de vie était de 65 ans. C'est ça qu'on a oublié. Et donc l'idée de la retraite originelle, c'était pas du tout une idée qui consistait à compenser une large partie de son revenu passé pour pouvoir continuer à avoir le même mode de vie et le niveau de vie. C'était un modèle où on donnait une indemnité de chômage, c'est-à-dire que ça permettait à des gens qui, de façon exceptionnelle, vivaient au-delà de 65 ans, d'avoir de quoi vivre dans la décence. C'était une indemnité retraite. Sauf que maintenant, c'est très clair, il y a de moins en moins de naissances, donc il y aura de moins en moins d'actifs. C'est les actifs qui payent la retraite dans un système par répartition. Il y a une durée de vie à la retraite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça, je dis avoir peur, non. C'est une très bonne nouvelle. On vit à la retraite 25 ans, 30 ans. C'est fabuleux. On pouvait même pas imaginer ça il y a 40 ou 50 ans ou même il y a 30 ans. Seulement, avec de moins en moins de gens pour payer la retraite, de plus en plus longue, de plus en plus de gens, ça colle pas. Qui est-ce qui pourrait combler ce déficit ? C'est l'État. Or, l'État n'a plus d'argent. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui, on le voit très bien. Je veux dire, le quoi qu'il en coûte, on peut le sortir une fois, deux fois. On voit bien que maintenant, on peut plus le dégainer parce que les taux ont monté, il y a de l'inflation et puis on arrive à des niveaux de dette qui sont insoutenables. Et donc, je veux dire, encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans quand j'ai écrit le livre, parce que ce qui a changé, tu m'interromps si je suis trop long, mais
non.
Ce qui a changé en 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle économie qui est née, c'est-à-dire que le rapport au travail n'est plus le même qu'en 2012-2013. En 2012-2013, on avait une carrière. Encore, ça paraît loin, hein. C'était il y a 10 ans seulement, mais c'était un autre monde. 2012-2013, tu rentrais, tu changeais 3 fois de boîte. C'était vraiment quelqu'un qui bougeait beaucoup. Aujourd'hui, tu t'arrêtes de bosser, tu retravailles à ton compte, tu deviens consultant, tu travailles dans une start-up, tu deviens entrepreneur, puis tu redeviens conseil, puis tu arrêtes de travailler. Donc aujourd'hui, on a des carrières qui sont complètement décousues, un rapport au travail qui est complètement différent. Et à partir de là, on peut pas imaginer que dans ce cadre-là, on va avoir une bonne vieille retraite à l'ancienne. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est assez simple, hein. On va revenir vers l'idée originelle de la retraite, qui était une indemnité retraite. C'est-à-dire que ce que je pense vraiment, et ça c'est ma conviction, c'est que la retraite ne sera faite que pour les gens qui ont réellement des difficultés. Ça sera comme les minima sociaux. Par contre, si tu as des salaires qui sont suffisants et des revenus qui sont suffisants, ben on va te dire démerde-toi et monte ta propre retraite. Et d'ailleurs, je veux dire, il y a un indicateur qui ne trompe pas, en fait, hein, c'est le taux d'épargne des Français. On a le taux d'épargne, un des taux d'épargne les plus élevés au monde. Si on a
17,2 là.
Voilà, donc si on a un des taux, juste pour comparaison avec les Américains, ils sont à 2,7. Si on a un taux d'épargne à 17,2, c'est que bien évidemment, les gens se projettent et se disent ben, il faut mettre de l'argent de côté parce que l'État ne va pas pouvoir subvenir à nos besoins.
D'ailleurs, ça rejoint quelque chose que tu as mis dans ton dernier livre. Tu dis qu'il faut se forcer à économiser et de dire il faut profiter, la vie est courte, en fait.
Ben c'est fini, ça. Non, mais ça, c'est cette expression. Puis alors, ça, c'est une expression de senior. Ah, la vie est trop courte. Ben non, la vie n'est pas trop courte. Maintenant, on vit à 85 ans. Tu ne peux plus dire ça. Donc, la vie est très longue. C'est une très, très bonne nouvelle. Je veux dire, très longue, ça veut dire qu'il faut quand même financer presque un tiers de sa vie à la retraite. Comment tu finances un tiers de ta vie à la retraite? C'est pas l'État qui va payer. C'est pas des jeunes comme toi ou des gens qui sont encore plus jeunes que toi qui vont accepter indéfiniment de savoir que eux n'auront pas de retraite, mais qui vont cotiser aujourd'hui pour payer ma retraite. C'est clair qu'on va vers une guerre de génération. On l'a vu, hein, d'ailleurs, dans la dernière réforme des retraites. Je ne sais pas si tu as vu la violence des messages des jeunes générations en disant mais on nous emmerde, quoi. Allez prendre de l'argent chez les retraités. Donc, on a cette sorte de conflit sous-jacent qui est en train de bouillonner. Alors, ce qui me fascine et ce qui me fait un peu peur, ça me fait un peu peur, c'est qu'en fait, il y a un peu de déni de réalité. C'est-à-dire qu'on a eu la dernière réforme des retraites. On sait très bien le comité d'orientation des retraites dit, de toute façon, elle ne sera pas suffisante. Mais on fait comme si on avait réglé le problème. On n'a rien réglé du tout. On a gagné peut-être 2 ans. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, c'est les gens qui ont plus de 50 ans, leur retraite va être rabotée. Les retraités, leur retraite va être rabotée. Et si tu as moins de 50 ou 45 ans, tu n'auras pas de retraite. Tu auras une indemnité retraite. C'est juste pas possible d'avoir une retraite qui te permet de couvrir 50, voire 70% de tes derniers revenus. C'est juste fou.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour sauver le système des retraites?
Non, je crois pas que ce soit l'idée. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut retourner à l'idée originelle. L'idée originelle, c'est une idée de solidarité nationale. C'est-à-dire que la retraite, c'est je cotise pour aider des gens, comme une partie de la sécurité sociale, comme pour aider des gens qui sont dans la difficulté et qui vont avoir un niveau de revenu à leur retraite qui ne va pas leur permettre d'avoir une vie décente. Ça, c'est incontournable, non négociable. Mais à partir de là, il faut dire à tous les gens qui nous écoutent, mais à tout le monde, à partir de là, tout est en place pour la retraite par capitalisation. Donc moi, je ne suis pas un pur et dur de la retraite par capitalisation de façon dogmatique parce que je suis un admirateur du système américain anglo-saxon. Ce n'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a cette indemnité retraite et puis il faut se constituer sa propre épargne. C'est ce que font d'ailleurs les Français. Parfois, ils ne le font pas très bien. Ce qu'ils savent très bien faire, par contre, c'est épargner. Et pourquoi ils épargnent autant? Parce qu'ils voient bien qu'ils ont face à eux un État qui gère mal. Et ils savent que quand on gère mal, parce qu'il y a un bon sens paysan français, ben à un moment, on rentre dans le mur. Et donc, on va dans le mur. Et donc, la seule solution, c'est de se débrouiller tout seul. Je ne suis pas partisan des fonds de pension, de ces trucs-là. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire aujourd'hui, l'avantage que tu as en France, c'est que tu as une panoplie de placements directement ou indirectement valables pour la retraite qui sont tellement efficaces que pourquoi s'emmerder, quoi. Alors oui, tu as un effort à faire, mais l'effort, ils le font déjà. Parce que qu'est-ce que je dis? Moi, je dis, si tu as 25-30 ans, bah, tu élimines un repas à 4 dans un restaurant et puis tu les mets dans un versement programmé dans un produit de placement. Mais c'est ce que font les Français. Quand on dit 17%, c'est-à-dire qu'ils prennent 17% de leur revenu net et qu'ils le mettent en épargne. Donc ça, ils le font déjà. Maintenant, Là où, c'est pour ça que j'ai remis à jour le livre et qu'on a écrit un nouveau livre, bah, ils ne le font pas très bien. Donc, l'idée, c'est d'orienter cette épargne. Leur dire d'abord d'épargner très tôt et surtout leur dire, parce qu'ils épargnent de toute façon, leur dire surtout de bien orienter leur épargne, parce que le pire qui puisse se produire, c'est j'ai fait tous ces efforts pour épargner, à la fin, j'arrive pas à compenser mon manque à vivre à ma retraite.
Marc vient de vous l'expliquer, gérer ses finances, c'est indispensable pour assurer son avenir. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une plateforme qui permet de suivre votre patrimoine, gérer votre budget et d'investir en crypto. C'est vraiment votre cockpit. Concrètement, vous pouvez centraliser tous vos investissements au même endroit en connectant vos comptes bancaires, vos comptes d'épargne comme le PEA, l'assurance vie ou même les livrets. Vous pouvez aussi ajouter l'immobilier, les SCPI, les métaux précieux. Bref, vous avez tout au même endroit. Vous pouvez aussi gérer votre budget, catégoriser les transactions, créer des objectifs et suivre du coup les entrées et les sorties et éliminer les dépenses inutiles. Grâce à nos analyses, vous pouvez optimiser vos frais, améliorer vos diversifications et de façon générale, faire des meilleurs choix d'investissement. Et justement, vous pouvez maintenant investir directement sur Finari en crypto, en toute simplicité. À l'occasion de ce talk, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement pour que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Le code, il s'affiche juste ici. Allez, on retourne au talk. Tu as parlé du système américain. Qu'est-ce qu'on peut... Et notamment du fait que ce soit par capitalisation. Est-ce que tu peux nous préciser ce que ça veut dire? Et peut-être aussi, qu'est-ce qu'on peut apprendre des Américains qui sont beaucoup plus prompts et enthousiastes à l'idée d'investir dans des placements peut-être plus risqués, donc plus rentables?
Oui, alors je ne sais pas, je ne suis pas... j'ai été à l'école anglo-saxonne, j'ai travaillé dans des boîtes anglo-saxonnes, mais je ne suis pas un fan du système anglo-saxon, parce que c'est un système anglo-saxon qui est très dur. C'est-à-dire qu'en 2008, les gens ont confié de l'argent à des fonds de pension, notamment le fonds de pension de General Motors. General Motors s'est planté, les gens se sont retrouvés sans retraite. Et ils ont dû reprendre le boulot à 70 ans, 72 ans. Ce n'est pas du tout ce que je prône. Donc je ne suis pas du tout dans cette idée-là. Je suis dans l'idée de dire, on doit nous-mêmes... Donc qu'est-ce qu'il y a à apprendre du système américain pour répondre à ta question? Le fait qu'il faut faire de la capitalisation, d'accord ? Nous, on fait de l'épargne. Maintenant, il faut faire du placement, d'accord ? Et le placement, donc l'épargne, on fait bien. Alors peut-être que les plus jeunes n'épargnent pas assez, mais c'est normal, heureusement. Enfin, je veux dire, OK, il ne faut pas que les jeunes deviennent des vieux cons déjà jeunes. Mais l'idée, c'est quand même surtout qu'à partir de là, ce qu'on peut apprendre des Américains, c'est d'avoir peut-être une vision du placement qui est une vision un tout petit peu plus dynamique. Je dis plus dynamique. Je dis pas aussi dynamique qu'eux, parce que je pense que le tout action, le tout Nasdaq, le tout... ça donne les accidents qu'on a connus et tu n'as pas envie de te retrouver avec ton fonds de pension qui est à la bourse en 2001. Tu n'as pas envie de te retrouver avec ton fonds de pension qui est à la bourse en 2008. Donc, il faut un système qui est des amortisseurs, mais il faut un système qui soit résolument tourné vers le placement.
Et justement, les placements, ce serait quoi les outils aujourd'hui dont on dispose pour préparer spécifiquement sa retraite?
Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ton mot spécifiquement. En fait, si on y réfléchit, le premier placement retraite n'est pas un placement retraite. Le premier placement retraite, c'est la résidence principale. C'est-à-dire aujourd'hui, si on a un taux de détention de la résidence principale qui est aussi important, si on a cette obsession de la détention de l'immobilier... Je me rappelle quand même qu'il y a 10 ans, avec la nouvelle économie, on disait que c'était la fin de la propriété... Et que c'était idiot d'être détenteur de quelque chose. Et on s'aperçoit que, quelle que soit la génération, les gens veulent avoir un bien immobilier. J'ai envie de te dire que si tu as les moyens d'avoir ta résidence principale ou de louer ta résidence principale et d'acheter un autre bien immobilier que tu vas louer, ça, c'est le premier placement retraite absolu. Le deuxième placement retraite qui n'en est pas un, c'est l'assurance-vie. Parce que l'assurance-vie, je le répète 100 fois, c'est pas un placement. C'est une enveloppe fiscale avec des avantages qui sont absolument énormes. Donc, il faut avoir un contrat d'assurance vie. Et puis, la cerise sur le gâteau ou le gâteau lui-même, c'est en 2019, la loi Pacte. C'est le nouveau plan d'épargne retraite. Et là, c'est juste incroyable parce qu'aujourd'hui, tu as une enveloppe fiscale qui a les avantages de l'assurance vie. Avec un avantage supplémentaire, c'est que quand tu vas investir dans l'enveloppe de ton PER, dans ce PER, dans cette enveloppe-là, eh bien, tu vas pouvoir avoir une réduction de ton revenu imposable. C'est quand même génial. Les Français aiment la niche fiscale. D'ailleurs, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Hein. Ça a été un carton. Hein. Il y a plus de 7 millions ou 8 millions de PER qui sont ouverts en quelques années et ce n'est pas fini. En fait, tous les Français, je le dis, tous les Français à partir de 25-30 ans doivent avoir un PER. Alors avant, le PER, ce n'était pas possible pour un jeune parce que tu sortais à la retraite seulement, quoi qu'il se passe. Aujourd'hui, tu veux t'acheter une résidence principale, tu peux sortir de ton plan d'épargne retraite. Il t'arrive un événement, on ne souhaite pas, mais un événement douloureux, tu peux sortir de ton plan d'épargne retraite. Donc, il y a des voies de sortie. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre dedans. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour les gens qui sont les plus jeunes, l'assurance vie est plus souple. Et à partir de 40-45 ans, il faut shifter directement sur le plan d'épargne retraite. Surtout que 40-45 ans, si tu t'es pas trop planté, c'est là que tu es dans la tranche la plus importante d'imposition. Et c'est donc là que l'avantage fiscal est le plus important.
Et le PEA, c'est une enveloppe intéressante selon toi ?
Oui, c'est une enveloppe intéressante. Évidemment que c'est une enveloppe intéressante. Là aussi, c'est une exception française. Aujourd'hui, nous, on a plutôt tendance, chez Meilleur Taux Placement et de façon générale, à pousser quand même les enveloppes fiscales qui sont des enveloppes plus larges. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a, surtout en ce moment avec la hausse des taux, bah, c'est que clairement, dans l'assurance vie, ça me fait marrer parce que moi, je rigolais, il y a 3-4 ans, j'avais plein de gens avec qui je me fritais sur le thème « le fonds en euros est mort ». Bon, et il y a même des grands patrons d'assureurs qui ont dit le fonds en euros est mort. Aujourd'hui, tu as tous les assureurs qui remontent les taux d'intérêt du fonds en euros pour attirer des capitaux. Donc le fonds en euros n'est pas mort du tout. Aujourd'hui, tu as quand même des fonds en euros avec bonus qui te donnent du 4,6%. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Mmh. C'est-à-dire que tu es aujourd'hui dans une enveloppe fiscale avantageuse et tu touches, sans prendre de risque en capital, 4,6%. Je reviens à ta question. Pourquoi je pense qu'il vaut mieux faire... Après, tu peux avoir un PEA, il faut s'équiper d'un PEA, mais pourquoi je pense qu'aujourd'hui, déjà, il faut s'équiper d'un contrat d'assurance vie et d'un PER ? Parce que tu as la possibilité d'avoir toutes les classes d'actifs. Dans le PEA, comme son nom l'indique, tu as des actions. D'accord ? Là, dans un plan d'épargne... Aujourd'hui, dans un contrat d'assurance vie, dans un PER, tu peux avoir de l'or... Bon, c'est la relique des vieux comme moi. Tu peux avoir des actions, tu peux avoir des obligations, tu peux avoir du cash qui est rémunéré, tu peux avoir du fonds en euros, tu peux avoir du private equity, tu peux avoir de la pierre papier. Bon, c'est quand même pas mal.
C'est complet, ouais.
C'est complet, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un portefeuille. Si tu veux répliquer le portefeuille de family office ou même de high net worth, bah, finalement, aujourd'hui, quelqu'un avec 10 000 balles ou 20 000 balles, il peut répliquer le portefeuille exactement dans une enveloppe d'assurance vie qu'ont les grandes fortunes. C'est quand même un truc incroyable.
Il y a un sujet qui était quasiment tabou il y a 10 ans, t'en as un peu parlé, c'était les produits de taux. Là aujourd'hui...
Il y a 10 ans encore, ils étaient là. Il y a 10 ans, ils étaient là parce que les taux étaient encore à des niveaux de 4 ou 4,5. Donc,
Puis ça a disparu.
Ça a disparu. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'avais fait la première mouture des meilleurs placements pour les nuls. Donc, c'était en 21-22. Il n'y avait rien. Donc, ce qu'on disait, c'est globalement, on disait oui, mais laissez tomber, quoi. Il n'y a rien à faire. Vous n'allez pas prêter de l'argent et payer pour prêter de l'argent puisque les taux étaient négatifs. Et puis, quand on a fait la nouvelle mouture 2024-2025, là, on a été obligé de tout refaire. Parce que, évidemment, la classe obligataire, elle a rebondi. Et alors, ce qui est génial aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, autant c'est compliqué de prévoir l'avenir d'un point de vue macroéconomique, autant aujourd'hui, les décisions de placement, elles sont hyper simples, parce que tous les moteurs des placements sont ouverts. Tu vois, avant, on marchait sur, rappelle-toi, c'était le TINA, There is no alternative. Si tu voulais avoir un peu de rendement et un espoir de plus-value, il y avait que des actions. Mais aujourd'hui, tu as tout. Tu as les actions. On en a parlé, on peut en reparler si tu veux, le private equity. T'as l'immobilier qui commence à corriger, donc il va y avoir des opportunités hyper intéressantes. T'as le cash qui te rapporte de l'argent. Enfin, c'est un rêve, quoi. C'est une situation vraiment idéale aujourd'hui. Moi, je suis un fervent défenseur de l'allocation d'actifs. Et quand tu fais de l'allocation d'actifs et que t'as toutes les classes d'actifs à disposition, c'est juste fabuleux.
Le cash qui est rémunéré, je pense que ça fait le bonheur des banques. C'est le deuxième sujet qu'on voulait couvrir aujourd'hui. Tu avais expliqué dans ton livre « Faites sauter la banque » que la banque est un commerce comme un autre Attends, répétez après moi, la banque est un commerce comme un autre. La banque est un commerce comme un autre. Si votre magasin d'alimentation habituelle vous coûtait systématiquement 200 à 300 euros de plus que d'autres magasins, sans vous apporter un service supplémentaire, continuerez-vous à y faire vos courses? Non, bien sûr. Alors pourquoi vous restez dans votre banque?
Je veux dire, ça c'était il y a 10 ans ou je ne sais pas combien de temps, mais je m'arrache encore les cheveux, quoi. Nous, on voit venir des gens qui ont... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ceux qui laissent dormir leur argent sur leur compte bancaire. Ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas de la faute de la banque. S'ils ne veulent pas faire l'effort 10 minutes de faire un petit virement sur un compte épargne, au pire, sur un livret A. Je veux dire, moi, je leur dis, même le livret A, faites au moins le livret A, c'est au moins 3%. Par pitié, quoi. Ne laissez pas 500 milliards d'euros dormir sur des comptes bancaires. Alors, je pouvais comprendre quand c'était à zéro, au taux négatif. C'était une aubaine même de pouvoir laisser ton argent à zéro.
Gratuitement.
Gratuitement, parce que ça coûtait de l'argent de le placer. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à part un simple clic, tu vas passer de ton compte bancaire vers un compte épargne, tu vas passer de ton compte bancaire vers une assurance vie, tu vas passer de ton compte bancaire vers un livret A. Pourquoi laisser 500 milliards d'euros dormir sans prendre des taux d'intérêt? C'est juste complètement... Alors, c'est vrai que ça, c'est... Alors, du côté des banques, donc ça, c'est un sujet, si tu veux. Et ça, c'est la responsabilité, c'est pas les banques. Hein. Alors, c'est sûr qu'elles poussent pas trop.
Elles pourraient pousser.
Elles poussent. C'est-à-dire, elles poussent pour vendre des produits plus margés. Ensuite, t'as l'aberration totale, mais totale, incompréhensible. C'est-à-dire que moi, on voit des gens qui vont faire, c'est ce que je disais à l'époque dans le livre, qui vont, je sais pas, pendant des heures chercher le meilleur forfait mobile. Qui vont maintenant chez Lidl, ce que je critique pas, plutôt que chez Carrefour, parce qu'ils vont avoir un prix plus avantageux. Et qui, à côté de ça, vont avoir, alors évidemment, c'est pas toujours les mêmes, hein, mais même, je parle de petits placements, 1000 euros, 2000 euros. Il n'y a pas de petits placements, en fait, et il n'y a pas de petites économies. Et qui vont continuer à ouvrir un contrat d'assurance vie, gaiement, dans lequel tu as 3% de frais d'entrée, 3% de frais sur versement. Allez-y, c'est la fête du slip, et tout le monde se fait complètement plumer. C'est un truc qui est dingue, et les banques, elles font leur job. Je veux dire, c'est pas de l'arnaque, tout est écrit. Et maintenant, en plus, avec la transparence des frais, à la fin de l'année, tu sais exactement ce que t'as coûté. Donc avant, on disait, il y a une opacité, les banques veulent pas nous dire, on nous ment, enfin, tu connais le truc complotiste classique. Mais là, aujourd'hui, à la fin de ton année, mais les gens prennent cette feuille-là, ils la jettent par la fenêtre, alors qu'ils devraient la regarder. Aujourd'hui, tu as deux produits équivalents. C'est-à-dire, c'est même pas la question d'aller avec un produit sans marque de moins bonne qualité. Là, tu as le même produit en ligne, zéro frais d'entrée, même compagnie d'assurance, même support, même avantages fiscaux, les gens vont quand même, dans leur banque, payer ces 3% ou 2% de droits d'entrée, prendre des produits qui sont hyper margés, et ils se font massacrer, parce qu'il y a quelque part 2 à 3% de ton argent qui part chaque année. C'est une fuite, c'est insupportable comme idée. Et moi, c'est un truc contre lequel je me bats depuis des années, sans grand succès, parce que aujourd'hui on voit quand même, oui, alors évidemment, tu peux dire, les banques en ligne ont elles ont explosé, mais enfin non plus, c'est pas, tu vois, ça n'a pas été la révolution. Aujourd'hui, les banques, si tu refais le calcul des actifs, bah, qui a les banques? C'est les grandes banques de réseau. Alors on se dit toujours, oui, c'est en train de changer, mais ça change à la marge. Parce que tant qu'il n'y aura pas eu un wake-up call, et je ne sais pas comment il va venir... tant qu'il n'y aura pas eu ce wake-up call, les gens continueront à aller gratter 3 balles sur leur forfait mobile et à perdre 400 balles par an, parce que c'est à peu près ce qu'ils perdent chaque année au minimum, 400 balles par an. Bah, toi, avec Finari, on s'en rend compte directement, enfin, j'imagine, avec les frais, avec tout ça, et ils les perdent, et voilà, et puis c'est tout. Ils ont l'impression que c'est une fatalité, alors il faut leur dire, c'est pas une fatalité. Vous pouvez récupérer 300, 400, 500, même des dizaines de milliers d'euros chaque année en accordant, allez, je me battais pour ça dans mes livres, en accordant, voilà, une demi-heure par mois à votre argent. C'est quand même pas beaucoup, quoi.
C'est pas cher payé.
C'est pas cher payé.
Je pense qu'il y a une partie aussi de l'explication qui est dans la complexité de comprendre le sujet.
Je crois plus.
Lire un document de frais, tu vois, lire un document d'information.
Non, je crois plus.
Je pense que c'est simple.
Non, je pense que grâce à des gens comme toi, grâce au travail qu'on a.
Une fois que tu l'as vu, t'as compris.
Oui, le travail qu'on fait tous. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que, voilà, il y a eu, là aussi, en 10 ans, ça a changé. Je veux dire, il y a 10 ans, il n'y avait pas des gens comme toi. Il y avait plein de... Aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos, qui font des explications. Tout est disponible, l'info, les réseaux sociaux, tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une question de flemme qui est inexcusable. Je le dis franchement, de façon assez brutale. Vous n'avez pas le droit de perdre autant d'argent par an uniquement par paresse, quoi.
Surtout que c'est la façon la plus simple d'augmenter sa performance. Bah, c'est évidemment. Mécanique.
Mais c'est mécanique. Tu vois, ça, c'est le truc le plus simple. Tu n'as même pas à te creuser la tête. Tu enlèves les frais sur versement, tu enlèves les frais d'entrée sur tous les produits passants, puis ça y est, c'est fini. Déjà, tu as gagné 2% de rendement. Gagner 2% de rendement, c'est énorme. Énorme.
Il y a un autre sujet dans la galaxie des banques, c'était les faillites. Il y en a eu plusieurs. Bon, évidemment, en 2008, il y en a eu plein. Ensuite, c'est revenu régulièrement. Et donc, à un moment, la question que tu te posais, c'est est-ce que nos fonds sont en sécurité chez les banques ? Est-ce
absolument.
Qu'aujourd'hui, il faut s'inquiéter de la stabilité des banques ?
Non, je ne crois pas, parce que, en fait, moi, ce qui a beaucoup changé depuis le quoi qu'il en coûte de juillet 2012 de Mario Draghi, c'est qu'en fait, les banques
c'est
sont...
le gouverneur de la Banque Centrale.
Le gouverneur de la Banque Centrale qui a sauvé la Grèce et qui a donc sauvé l'euro et qui a donc sauvé la zone euro et qui a sauvé les banques qui étaient en grande difficulté. La réalité... c'est qu'en fait, toutes les banques commerciales aujourd'hui sont des émanations de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est des filiales de la BCE. Bah, il y en a une qui est bleue, une qui est rouge et noire, une qui est verte, mais finalement, c'est toutes les mêmes. Et finalement, elles ont un robinet vers lequel elles peuvent se tourner en cas de difficulté. Et ça fonctionne relativement bien. J'ai plus d'inquiétude, comme on l'a vu, sur des banques régionales aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tu n'as pas le système qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, le too big to fail, il est évident. On ne laissera jamais tomber une banque.
En France, en tout cas.
En France, en Europe.
En Europe.
Je parle de banques importantes. Et les petites, s'il devait y avoir des difficultés, on les récupérait. On s'est aperçu d'un truc aussi qui est très nouveau. Hein. Ce n'est pas très technique, mais les gens ne l'ont pas réalisé. C'est qu'il y a une nouvelle philosophie de sauvetage des banques. Avant, quand on sauvait les banques, on essayait de sauver un peu les actionnaires des banques. Et on essayait aussi de sauver les gens qui prêtaient aux banques, parfois au dépens du déposant. Aujourd'hui, la règle... c'est le déposant d'abord, ce qui est quand même une garantie. Et l'actionnaire, si on doit le rincer, on le rince parce que lui, il est en risque, tant pis pour lui. C'est ce qui s'est passé dans les sauvetages de banques aux États-Unis, de banques régionales. On a rincé totalement les actionnaires. Par contre, on a assuré les dépôts des déposants.
Heureusement.
Heureusement. Ouais, heureusement, mais c'était pas gagné.
C'était pas gagné.
Non, attends, heureusement, oui, tu as raison, heureusement, mais je pense que les gens n'ont pas réalisé qu'on a changé de philosophie.
C'est vrai. Il y a un autre sujet, c'est ce que les banques font avec l'argent qu'on y place, notamment le type de secteur qu'elles financent et plus particulièrement les énergies fossiles.
T'es pas tombé avec le bon interlocuteur là, sur le sujet.
Alors, dis-moi, quel est ton avis ?
C'était pas moi, là. C'est pas moi qu'il fallait inviter si tu voulais parler ESG,
non, parce que ça revient
investir dans
les
énergies fossiles. Je pense qu'il y a une énorme hypocrisie. C'est-à-dire que ça revient avec des gens qui vont prendre leur bagnole et mettre de l'essence. Et ils pensent que l'essence, elle sort de...
elle sort... magique.
Bah oui. Donc, si tu veux, je pense que là, on est dans une aberration. Là, on pourrait faire 8 podcasts sur le sujet tellement ça m'énerve. On est dans une aberration totale. C'est-à-dire que il y a une hypocrisie, mais majeure. Et bon, je veux dire, je vais pas dire du mal de la finance verte, mais bon, pour moi, tout ça, c'est de la flûte, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, on parle de transition climatique, mais on n'organise pas la transition. C'est-à-dire, on a des dogmes, des diktats. Ah, il ne faut plus investir dans les énergies fossiles. Ah bon ? Et comment on fait là pour les 20 ans qui viennent ? Donc, ça veut dire que nous, on n'investit plus. Qui est-ce qui va investir ? La Chine, les pays du Golfe.
Les Russes.
Les Russes. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, nous, on refait le remake de la crise énergétique de l'Ukraine. C'est-à-dire que du jour au lendemain, s'il n'y a plus d'investisseurs occidentaux classiques qui investissent dans l'énergie fossile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, on va tous avoir des éoliennes. Attends, surtout que tu vois l'investissement, là, ce qui s'est passé, l'investissement vert depuis 12 ou 18 mois, le solaire, les éoliennes, mais c'est un massacre. Donc, je pense qu'il faut bien expliquer que, un, il n'y a pas de remise en cause. Réchauffement climatique, tout ça, c'est pas à moi de dire, mais je veux dire, je remets pas du tout ça en cause. Mais ce que je remets en cause, c'est l'hypocrisie qui fait qu'on continue à fonctionner avec des énergies fossiles en disant il faut plus investir dans les énergies fossiles. C'est-à-dire que là, vraiment, on court à notre perte. Et donc, on va avoir à nouveau des crises énergétiques comme on a eu avec l'Ukraine. Surtout que je pense que les acteurs majeurs de la transition énergétique, ce sont les acteurs des énergies fossiles. C'est-à-dire que si tu veux investir dans une boîte qui a les moyens d'investir dans la transition énergétique, tu investis chez Total. Donc, ça, donc dire on va blacklister Total, ça me paraît complètement fou, quoi.
Les banques, je pense qu'on est quand même nombreux à vouloir s'en passer. On a vu l'émergence de toute une finance décentralisée avec bon, le Bitcoin et ensuite la création de ce qu'on appelle le Web3, même si c'est un terme un peu pipo marketing. Est-ce que ça a vraiment des chances d'aboutir que demain, est-ce qu'on pourrait envisager un futur dans lequel, en fait, on serait plus bancarisé via une entité centralisée, mais on pourrait se banquer nous-mêmes, finalement?
Oui, je pense que ça, c'est franchement, là, tu vois, autant il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on est vraiment dans du fantasme ou de la flûte ou un miroir aux alouettes pour les pigeons. Mais autant là, je pense que oui. Enfin, mais je pense que là aussi, c'est un peu comme la transition énergétique. C'est-à-dire que si les banques prennent intelligemment le tournant, c'est peut-être elles qui vont mener la danse. Mais il faut qu'elles apprennent à se transformer. Ce qu'elles sont en train de faire, parce que c'est quand même la transformation des banques est assez spectaculaire. Hein. Petit à petit, les réseaux qui se ferment. Bon, je veux dire, les applis bancaires, c'est pas ton appli. Mais aujourd'hui, l'appli que tu as dans une banque, c'est quand même pas du tout ce qu'on avait il y a 3-4 ans. Donc, il y a des progrès qui sont faits, ça avance très vite. Dans le domaine de la dématérialisation, on a fait quand même un saut quantique. Donc oui, alors après te dire, est-ce que le gagnant de ça, ça va être quelqu'un qui n'est pas une banque, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux acteurs qui émergent et qui vont émerger? On en a vu. Mais tu t'aperçois quand même que les chiffres sont pas terribles, hein. Et là, c'est un euphémisme. Donc, est-ce que ce ne sont pas un peu comme dans la transition énergétique? Est-ce que dans cette transition financière, est-ce que ce sont pas les acteurs de l'ancienne finance qui vont peut-être prendre le lead? Je suis pas sûr.
Toi, t'as bossé dans des banques il y a un petit moment déjà. Ouais. Tu faisais du trading.
Ouais.
Est-ce que tu penses que les banques ont changé leur façon d'opérer sur la partie trading, notamment au niveau de la gestion des risques?
Ouais, je pense qu'il y a une meilleure gestion des risques, mais je pense que, si tu veux, c'est la notion de définition de risque qui est mauvaise. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est... Il faut bien comprendre que le système financier, et notamment la finance de marché, ne peut fonctionner qu'avec de la volatilité. Voilà. Donc, il faut partir de ce préambule. Donc, la volatilité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nervosité. Pour qu'il y ait de la nervosité, il faut ce qu'on appelle aux États-Unis des booms et des busts. C'est-à-dire qu'il faut créer des bulles et il faut que les bulles éclatent. Et on recrée des bulles et la bulle éclate. Et donc, c'est ce modèle-là. Donc, oui, j'ai envie de te dire, il y a un meilleur contrôle des risques. Sauf que quand tout le monde suit comme les moutons de Panurge, tous les investissements dans le même secteur à des prix aberrants au même moment, ben, ça fait boom. Forcément. Donc, de toute façon, inhérent au système financier et à la finance de marché, il y a des explosions. Et il y aura des explosions. Donc, il y aura des risques. Est-ce que les risques sont contrôlés? Ils sont mieux contrôlés? Est-ce qu'ils sont éliminés? La réponse est non.
Dans ton livre, tu avais déjà parlé des frais bancaires qui étaient un énorme problème.
Évidemment.
Du coup, on a regardé. En 2020, en moyenne, un Français paye 220 euros de frais à sa banque. Enfin, en gros, il jette 220 euros par la fenêtre. C'est quoi les stratagèmes à mettre en place pour s'en débarrasser?
Bah déjà, de s'en apercevoir. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Hein. C'est-à-dire que tu les connais, tes frais. Tu es bien placé pour le savoir. C'est totalement transparent. Donc à partir de là, il faut regarder son niveau de frais. Il faut comprendre la justification des frais. Il ne faut pas hésiter à passer un coup de fil à son banquier en lui disant « Écoutez, moi, je ne comprends pas. » Et puis, je vais dire un truc, le nombre de fois où tu peux te faire ristourner des frais juste parce que t'as gueulé, parce que personne ne gueule, ça vaut le coup de le faire, parce que tu récupéreras les deux tiers sans aucun problème. Donc, un, c'est s'en apercevoir, regarder son relevé de fin d'année de frais bancaires, se poser la question de savoir si c'est trop élevé et qu'est-ce qui les justifie, et s'il n'y a pas de justification. Alors, il y a un moyen quand même, déjà très important. La plus grosse partie, alors, c'est des frais bancaires au sens large, c'est les frais sur découvert. C'est-à-dire que tu t'aperçois que là aussi, par paresse, les gens vont avoir, je sais pas, 3 000 euros sur un compte, et puis ils seront à découvert de 500 balles sur un autre compte. Et ils n'ont pas juste le temps de transférer. Et ça, c'est un massacre, hein, les frais sur découvert.
Les agios.
Ah ouais, non, mais ça c'est du pain béni, évidemment, pour les banques, parce qu'elles te laissent t'enferrer, pas trop quand même, parce que derrière, tu ne pourras pas rembourser, mais suffisamment pour laisser, si tu peux être en découvert de 1000 à 2000 balles tout le mois, bah, là, tu fais la fortune de ta banque. Hein.
Transition parfaite, du coup, pour ton prochain livre, ou en tout cas, un autre livre que tu as écrit en 2012, Immobiliez-vous. Mmh. En gros, dans lequel t'expliques que les Français ont pris peur de la volatilité de la bourse, ils ont pris peur de la gestion de la crise par les banques, et
exactement,
du coup, ils n'ont pas envie de se retrouver sans le toit, littéralement SDF, c'est tes mots. Et donc, l'immobilier a connu une hausse spectaculaire. Est-ce que c'est vraiment ça qui explique la hausse des prix qu'on a eue?
Ah, c'est sûr. Enfin, c'est un bouquin donc, que j'ai écrit en 2012, on sortait de la crise de 2008. Et j'avais cette conviction forte, bon, qui s'est révélée exacte, on ne peut pas toujours avoir tort, que globalement, il y allait avoir cette ruée vers l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est tout, quoi. L'immobilier, d'abord, il y a un attachement en France qui est vraiment très important par rapport à la pierre. Et puis, l'immobilier, c'est, on parlait tout à l'heure de la retraite, c'est un toit. Et donc tu te dis, si je n'ai plus rien, au moins j'aurai un toit. Combien de fois t'entends cette phrase qui consiste à dire, au pire on se débrouillera, mais au moins on a un toit. Au moins on a un toit. Et donc je pense que ça a été, alors il y a deux facteurs, hein, il faut pas se leurrer, il y a ce facteur là et puis il y a évidemment le facteur de la baisse des taux. Ce qui a alimenté l'explosion des prix de l'immobilier, c'est évidemment la baisse des taux. Mais l'immobilier, c'est en France, je le disais tout à l'heure, le premier placement retraite. Le toit pour ma retraite.
Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se loger. C'est déjà un sujet dans ton livre. C'est un sujet qui, pareil, c'est un peu le marronnier. Chaque année, c'est pire. Comment tu vois le sujet évoluer?
Je le vois évoluer. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y attaque vraiment très rapidement parce que c'est une urgence sociale, une urgence politique. Après, il y a plein de facteurs qui sont quand même intéressants parce que moi, j'adore prendre toujours un peu de recul et dézoomer quand je suis sur un sujet pour essayer de me dire, bah, tiens, en termes d'évolution, comment je peux pondérer le raisonnement qu'on a aujourd'hui en me disant qu'il y a des facteurs qui vont changer. Bah, le facteur qui va changer quand même, c'est la mobilité du travail. Donc tu vois déjà, bon, évidemment, ce qui se passe, que ce soit avec le télétravail, mais aussi la semaine des 4 jours, parce que je pense qu'on y va, puis la semaine des 3 jours, parce que je pense qu'on y va. Et à partir de là, tu vas quand même avoir un désengorgement des centres-villes, tu vas avoir ce que tu as déjà aujourd'hui, hein, une explosion des villes secondaires. Donc ça, j'ai envie de te dire, moi je crois beaucoup au fait que l'économie s'auto-régule. Voilà, je crois à ça, c'est-à-dire que, je te prends un autre exemple, on va de plus en plus vers une réduction du nombre de jobs du fait de l'IA, j'en suis intimement persuadé, mais ça tombe bien parce que du fait de la démographie, ben on va avoir de moins en moins de gens qui travaillent. Donc moi je crois beaucoup à ce type de facteurs qui viennent se croiser, c'est-à-dire quand deux révolutions se croisent, ça peut régler des problèmes. Et là, il y a deux révolutions qui se croisent. Tu as à la fois la révolution sociale liée à la hausse du prix de l'immobilier qui fait qu'aujourd'hui, tu exclus de l'immobilier une partie de la population. Donc, soit tu l'exclus parce que tu l'exclus complètement de l'achat, mais tu l'exclus aussi de la location. Parce que, évidemment, plus le prix de l'immobilier augmente, plus les loyers augmentent. Et même quand le prix de l'immobilier baisse, les loyers augmentent parce que les gens n'achètent plus, mais ils louent. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. On commence à avoir un effritement des prix à l'achat, mais une hausse des loyers. De l'autre côté, tu as ce phénomène géographique qui va quand même changer beaucoup de choses. C'est-à-dire là, tu me parles de nous projeter à 10 ans. Et à 10 ans, je pense qu'on fonctionnera plus. Déjà, regarde le changement 2013, 2014, 2024. 2024, 2034, je pense que le monde du travail ne ressemblera absolument pas au monde qu'on a aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le monde de l'immobilier va évoluer. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire une sorte de plan Marshall de l'immobilier. c'est certain. C'est-à-dire qu'il va falloir faire sauter une partie des réglementations, il va falloir permettre, je disais qu'on faisait ce qui se fait pas mal dans d'autres pays, les surélévations. Enfin, là-dessus, on peut avoir plein d'idées, mais il faut prendre le sujet en main parce qu'il est explosif. Il est d'autant plus explosif que tout ça va dans le sens de la guerre des générations. C'est-à-dire que évidemment, celui qui a de l'immobilier sur lequel il n'a plus de crédit, avec souvent un appartement qui est trop grand parce que les enfants sont partis, bah, c'est le senior. Et celui qui n'a rien, c'est le jeune. Donc là encore, comme pour la retraite, on crée des sujets de tension. On crée une sorte de guerre de génération. En tout cas, on est en train de créer un fossé générationnel qui va mener à un combat. J'en suis intimement persuadé. En tout cas, un bras de fer.
Justement, si on se projette et qu'on sort des dernières années, on regarde même les 20-30 prochaines années et qu'on commence par l'immobilier, ce serait quoi les placements qu'on pourrait faire aujourd'hui pour profiter des changements structurels, tectoniques qui sont en train de se préparer?
Écoute, c'est intéressant. Je continue à penser que la résidence principale n'est pas un placement. C'est-à-dire que c'est un placement, mais c'est plus que ça. Donc j'ai envie de dire.
C'est l'immobilier de jouissance pour toi?
C'est l'immobilier de jouissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que se lancer sur de l'immobilier locatif. Bon, alors après, t'as tout de suite des histoires, je crois que t'en avais reçu, des gens qui achètent un studio, puis deux studios, bon, ça c'était super. Je suis pas certain que ce soit encore le bon truc à faire, parce que ça devient de plus en plus pesant, parce que les passoires thermiques, parce que les réglementations, parce que les contraintes de loyer, bon, enfin, on en passait des meilleurs. Donc, j'ai tendance à dire que aujourd'hui, nous, la façon dont on voit les choses, c'est qu'on dit évidemment d'un côté, immobilier de jouissance, d'accord, avec une vision et une prévision, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des prix sur lesquels il ne faut pas aller, même s'ils sont très élevés, qu'on a les moyens d'aller, parce que je pense qu'il y a des aberrations qui se corrigent, et les aberrations se corrigent toujours, donc ça c'est un premier sujet. Et de l'autre côté, j'ai envie de te dire que si tu veux investir dans de la pierre qui n'est pas ta résidence principale, même si aujourd'hui la pierre papier est vraiment très secouée, je pense qu'il faut aller sur la pierre papier. Alors, peut-être pas maintenant, il faut être très sélectif, il faut regarder les supports, il faut voir des thématiques, il y a de plus en plus de SCPI qui sont sur des thématiques, mais je pense que là, il y a une correction très forte qui est en train de se produire, un assainissement du marché, comme tous les marchés. Il n'y a pas de raison que l'immobilier soit déconnecté de la réalité, c'est-à-dire l'immobilier, c'est comme les autres marchés, c'est-à-dire ça monte pendant 10 ans et puis ça se casse la gueule pendant 2 ans. C'est logique, mais ensuite ça remonte. Et donc je pense que l'avantage de la pierre papier, c'est qu'évidemment, tu n'as pas tous les emmerdements de la gestion, et puis c'est quand même un peu plus liquide, même si en ce moment, ce n'est pas très liquide.
Toi, t'en fais à titre personnel?
Ouais, j'en fais à titre. C'est-à-dire mon immobilier investissement hors jouissance n'est qu'en pierre papier. Et principalement, juste pour aller au bout de l'exercice, dans le cadre de l'assurance-vie, parce qu'aujourd'hui, tu peux mettre des SCI sans frais dans des contrats d'assurance-vie. Ça, c'est quand même fabuleux.
Il y a l'immobilier, du coup, qui est un sujet qui va être important.
Très.
C'est quoi les autres thématiques que toi, t'observes et qui pourraient être importantes dans les années à venir?
Wow. Bah, les thématiques importantes, c'est évidemment l'évolution, on en a parlé tout à l'heure, du rapport au travail. Je pense que ça va être la clé, c'est-à-dire que j'ai la perception de plus en plus forte que j'avais déjà il y a 10 ans ou 15 ans qu'on est en train d'évoluer d'une société de travail vers une société de loisirs. Donc à partir du moment où on évolue d'une société de travail à une société de loisirs, ça veut dire quand même quelque part que les revenus ne vont pas augmenter. Et d'ailleurs, c'est la perception qu'ont les jeunes générations. Ils se disent « on ne va pas pouvoir faire mieux que nos parents ». Je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. Après, évidemment, on est dans cette recherche d'équilibre entre vie professionnelle, bien-être, vie familiale. Donc je pense que le rapport à travail va changer complètement, qu'à partir de là, ça va peser sur la consommation. Et je pense, alors c'est pas le sujet aujourd'hui, hein, parce que c'est trop vaste, je pense qu'on rentre, ça paraît étonnant à un moment où tous les indices boursiers explosent tous les niveaux, je pense qu'on s'approche d'une crise du capitalisme. C'est-à-dire que je pense que le modèle capitaliste va être mis en question. Si tu me demandais ma prédiction à 20 ans, je dirais que j'aurais des inquiétudes sur le modèle capitaliste.
Du coup, comment il faut se positionner? C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire ou défaire dans ces investissements?
Écoute, c'est difficile. En fait, si tu te projettes trop, tu fais plus rien. Donc, les meilleurs investissements, c'est les investissements souvent qui sont faits avec un peu le nez dans le guidon, parce que si tu te lances dans des prévisions qui sont des prévisions très larges, moi, j'ai un indicateur qui est un indicateur que je suis toujours, c'est l'inflation au niveau des taux d'intérêt. Tous mes raisonnements sont en fonction des niveaux d'intérêt. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt sont au niveau auquel ils sont aujourd'hui, quitte à perdre des opportunités, je réduis ma part action. Et donc, pour répondre à ta question, quand je me projette, en fait, j'ai le nez sur le guidon. J'essaye de me projeter, mais en ayant le nez sur le guidon des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est mon driver principal. Parce que ça drive toute ma stratégie d'investissement. En fait, ça drive mon allocation entre les différentes poches d'investissement.
Et tu les vois évoluer comment à court terme ?
Ben, à court terme, je les vois baisser. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que l'inflation est en train de refluer et que c'était une inflation totalement temporaire. Par contre, je les vois refluer, mais je les vois se maintenir à un niveau qui reste un niveau relativement élevé parce qu'on a un problème d'endettement majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois les dettes, quand tu vois le déficit américain à 8% du PIB, quand tu vois le nôtre à 5%, il ne va pas baisser. Bon, et tout ça, il faudra le refinancer. Donc, il faut payer des taux d'intérêt parce que les gens ne vont pas accepter de refinancer tout ça à des taux négatifs.
Tu as parlé des actions. Toi, tu fais du stock picking ou tu es sur des ETF ?
Alors non, moi je suis sur principalement... Alors il y a deux catégories. Quand il y a des ETF disponibles sur la catégorie d'investissement qui m'intéresse, je prends des ETF, je me pose plus de questions. En revanche, quand par exemple, moi j'aime beaucoup les small cap françaises, bon ben là il n'y a pas d'ETF et là je vais chercher des gérants qui savent faire ça. Donc mes choix c'est toujours... Nous dans notre allocation par exemple qu'on fait pour meilleur taux dans le cadre de notre gestion pilotée, bah, tout ce qui est ETF-isable, c'est-à-dire l'action classique et l'obligataire, bah, généralement on va sur des ETF et puis quand on veut des produits spécifiques type fonds obligataires à échéance ou type fonds actions small cap, on va confier ça à des gérants qui savent faire ça.
C'est quoi les gérants ? C'est qui les gérants que tu aimes bien ?
Ah non, tu peux pas me faire ça, parce que si je dis ceux que j'aime bien, ça veut dire que les autres, je les aime pas.
Les
non,
qui
non. Non, non, surtout que j'ai deux gérants invités par semaine, donc soit je cite les 40, soit j'en cite que 4 et je vais me faire 36,5. Non, ça c'est impossible, tu ne m'auras pas là.
On parlait des actifs cotés. Ouais. Il y a le non-coté, le private equity, qui est aussi une thématique intéressante. Toi, tu viens de lancer
beaucoup.
Un deal club dessus.
J'y crois beaucoup. Je crois que si tu veux, aujourd'hui, nous, on a une clientèle de mass affluent. Notre définition du mass affluent, on en avait parlé lors de notre dernier entretien. C'est des gens qui ont 150 à 200 000 euros d'épargne financière jusqu'à 2 millions, 2 millions et demi. C'est des gens qui ne sont pas équipés en private equity, en actifs non cotés. Le taux d'équipement de private equity, actifs non cotés, pour des grandes fortunes, des family office, est supérieur à 25%. Donc on pense qu'on va pas aller à 25%, mais on pense qu'on va aller de 0 à 15 ou de 0 à 12. Donc à partir de là, tu dis, bon, une fois que tu es arrivé à cette conclusion-là, qu'est-ce qui est retailisable ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est accessible au grand public ? Donc il y a déjà des unités de compte sur les contrats d'assurance vie et les PER, donc qui existent, qui fonctionnent très bien. Donc ça, c'est une forme de private equity. Il y a des fonds type la BPI a lancé un fonds retail, un fonds de fonds qui marche très bien, qui est un très bon produit et qu'on peut mettre en plus dans son contrat d'assurance vie, ça c'est très bien. Et puis je pense que, parce que moi je suis un fan un peu dans la partie côté des small cap, je pense que les gens ont besoin de toucher du doigt un peu un entrepreneur, une entreprise, une entrepreneuse, une histoire d'entreprise. Et donc, on pense qu'il y a une clientèle qui a envie, à côté de 80% de fonds, de mettre 10 à 20% de son investissement non coté dans des entreprises en direct. Et donc, elle va être en ligne en mars, une plateforme qui permettra aux particuliers d'investir en direct dans des entreprises non cotées, avec une spécificité, parce que ça existe, hein, il y a plein de plateformes de crowdfunding qui existent. Alors, elle faisait beaucoup d'immobilier, et puis elle faisait beaucoup de capital risque ou de venture. Nous, on va avoir un biais qui est, donc ça s'appelle le Deal Club, on va avoir un biais qui est très fort, qui est de dire on investit que dans des entreprises qui font de la croissance, mais qui sont rentables. Alors, on va pas trouver le nouveau Google, mais on va essayer de faire x2 en 5 ans, c'est notre objectif. Donc, c'est pas x10, c'est pas x30, mais c'est pas zéro. Et donc, nous, on n'est pas dans le côté, j'en ai 9 sur 10 qui vont peut-être se planter, mais j'en ai une qui va rattraper largement les pertes des autres. Pas du tout. Donc c'est pas ma culture, c'est pas ce que je connais, c'est pas ma forme d'investissement, c'est pas le profil de mes clients, c'est pas le profil des membres de la communauté de Meilleur Taux Placement, et donc je préfère nous orienter vers quelque chose qui correspond mieux à l'ADN de notre communauté.
Et tu peux nous parler du premier investissement que vous
non.
allez faire du secteur en tout cas qui t'intéresse ou des secteurs
non,
que tu regardes.
Non, tous les secteurs m'intéressent, mais là, je reviendrai en parler.
Ok, ça marche. Est-ce que tu as quelques prédictions un peu folles que tu peux nous livrer sur lesquelles on pourrait, là maintenant, agir déjà pour peut-être aller faire le x10 avec une toute petite part de notre patrimoine?
Non, la prédiction la plus folle que j'ai, mais c'est la même depuis 10 ans et je suis conforté dans cette prédiction qui paraît moins folle aujourd'hui, c'est la disparition du travail, quoi. J'en suis intimement persuadé. C'est-à-dire que ce soit par choix, c'est-à-dire je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont moins envie de bosser qu'on va transformer le travail, ou si il y a la perception déjà intuitive qu'une partie de ce qu'on fait est remplaçable et va être remplacé par, entre autres, l'intelligence artificielle, mais pas que, qui fait qu'on se dit c'est pas la peine de bosser parce qu'on sait très bien qu'une partie de notre job. Moi, ma prédiction la plus folle, c'est que c'est la fin du travail. C'est-à-dire que je pense que je me suis relancé dans la lecture du Capital de Marx et je me dis finalement, il parlait de l'automatisation et du fait que la machine allait remplacer le travail humain. Ça s'est passé à l'as. Et en fait, il a eu raison sur cette partie-là, il s'est totalement planté sur l'idée de dire que finalement, les boîtes exploitaient le travail des gens. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une grosse partie de la richesse des boîtes n'est pas générée par les gens qui y travaillent, en partie par les gens qui y travaillent, mais de plus en plus par la machine. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, ma réflexion, le soir, quand j'entre chez moi, quand j'essaye de me projeter, je me dis, bon, voilà, il n'y a plus de travail. C'est les machines qui nous remplacent. C'est pas une vision apocalyptique, hein. Alors, elles nous remplacent à 50%. C'est pas grave. Ça veut dire qu'on est augmenté de 100%. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je décline tout ça. C'est-à-dire, je me dis, bah, si c'est ça, ça veut dire moins de consommation, mais une qualité de vie qui sera meilleure, avec un mode de vie qui sera différent, avec un lieu de vie qui sera différent, avec une organisation qui sera différente. Mais je t'avoue qu'à la fin, l'arrivée, je préfère même pas y penser parce qu'elle est terrifiante. Parce que l'arrivée, c'est moi, je suis intimement persuadé que le capitalisme ne vit que de la surconsommation et que si aujourd'hui on rentre dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire où on réduit la place du travail et on augmente la place du loisir, le seul moyen de survivre, c'est de ne plus surconsommer. Je parle même pas de sauver la planète, je parle simplement pour trouver ton équilibre financier, ton équilibre de vie. Si tu retires la surconsommation, tu retires le profit. Si tu retires le profit, tu détruis le capitalisme.
C'est inquiétant. Enfin, c'est inquiétant pas pour le capitalisme, mais pour...
Non, c'est pas inquiétant. Moi, tu vois, pourtant, je suis pas de cette génération-là. Je pourrais être inquiété. Je suis pas du tout inquiété parce que je trouve au contraire que c'est une vision... C'est la vision des grands utopistes du 19e siècle. Ils rêvaient de ça et on est en train d'y arriver, quoi. Je veux dire, je pense que quelqu'un aujourd'hui qui était marxiste et qui débarque aujourd'hui et qui regarde la façon dont on vit et la façon dont les travailleurs sont traités en général, l'équilibre de vie, les journées de repos, les machins, le type se dit non mais c'est pas possible, vous nous racontez un crack, ça n'existe pas ça.
Et malgré ça, t'écris encore des livres dans lesquels tu préconises l'investissement dans des actions, dans des obligations, enfin,
oui.
Finalement tout ce qui finance cette économie-là.
Oui, parce que je pense que ça va continuer à financer l'économie. Ça finance pas cette économie-là. Ce qui est extraordinaire dans l'économie, ce qui est extraordinaire dans le placement, c'est que ça s'adapte à tout. C'est-à-dire qu'on a connu je sais pas combien de révolutions industrielles, et puis bon, alors effectivement, t'as des secteurs entiers, le secteur des chemins de fer en bourse, il a disparu. Mais c'est pas grave. Il y a eu d'autres secteurs, il y a des gens qui ont été rincés, d'autres qui ont gagné beaucoup d'argent, et puis c'est un éternel recommencement. Donc, d'un point de vue investissement, je pense qu'au contraire, il faut continuer à investir et puis être extrêmement prudent. Pour moi, mon obsession quotidienne, c'est d'essayer de déterminer où il y a des bulles, tu vois, et donc de me dire, tiens, est-ce qu'il y a exagération et donc est-ce qu'il faut, c'est ce qui a fait que on s'est un tout petit peu mis en retrait pendant quelques temps sur quelques investissements immobiliers parce qu'on s'inquiétait de la baisse des taux et de l'impact durant la remontée de la hausse des taux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me pose des questions sur la big tech américaine, mais je me pose des questions, J'ai pas la réponse, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à la conclusion. Il y a deux façons de voir, c'est un sujet qui va sûrement t'intéresser, et c'est un sujet qu'on a eu à l'émission chez BFM, c'est votre argent. C'est qu'on a eu un débat très intéressant entre deux camps. Le premier camp dont je faisais partie, mais je suis en train d'évoluer, qui consistait à dire c'est aberrant en fait, qu'il y ait une sorte de cannibalisation des flux boursiers vers quelques valeurs.
Les magnifiques 7.
Oui, les 7 magnifiques, alors maintenant il n'y en a plus que 4, mais ou presque. Mais, et donc je me dis cette hyperconcentration, elle est malsaine, parce que plus ça monte, plus ça attire des capitaux. Donc ça c'est une façon de voir, c'est la mienne, un peu old school. Et puis il y a une autre version de quelqu'un qui était à l'antenne et qui a dit « Mais non, mais en fait vous n'avez pas compris qu'on est dans une économie de winner takes all. » Donc ça veut dire que demain... Pour être l'acteur de l'intelligence artificielle, si t'es pas Google, si t'es pas Microsoft, bah, tu peux rien faire, quoi. Et donc, c'est normal que le cours de Microsoft monte au ciel, parce que de toute façon, c'est lui qui va remporter la mise. Alors, je sais pas, je suis pas capable de... En tout cas, j'étais convaincu de ce que je pensais. Là, j'ai été déstabilisé, donc j'ai pas de réponse aujourd'hui pour dire est-ce qu'il y a une bulle sur la Big Tech, mais je me pose une question.
Est-ce que ça remet pas en cause l'investissement passif de dire ça ? Quel est l'intérêt de faire, par exemple, le S&P 500 si, finalement, la majorité de la performance va être drivée par 1, 2, 3, 4 titres ?
Bah justement, au contraire. Il vaut mieux, dans ce cas-là, faire de l'investissement passif que de l'investissement actif. Parce que dans l'investissement actif, sauf si tu es Warren Buffett, tu ne vas jamais prendre 60% de ces grosses valeurs. Parce qu'aujourd'hui, les indices, les benchmarks pour répliquer l'indice,
Ils sont obligés d'acheter.
Ils sont obligés d'acheter. Est-ce que toi, gérant, tu continuerais à acheter, si tu avais le choix, Apple, Microsoft, en regardant les valorisations, peut-être que tu dirais c'est trop cher. La machine, elle ne pense pas. Elle continue à l'acheter et ça continue à monter. Et elle a raison, pour l'instant.
Pour revenir sur les taux, c'est le facteur qui oriente la majorité de tes décisions.
Absolument.
C'est t'as le Euribor tous les matins.
Voilà, presque.
Chez toi. Sur l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que je dois acheter maintenant, renégocier les prix très fort parce que le bien a quelques défauts et au pire, je renégocierai mon taux plus tard ou alors j'attends puisque les prix vont baisser et les taux aussi vont baisser. Donc à un moment, il y aura un espèce d'effet qui se coule, qui sera magique. Comment tu vois la situation ?
Je pense que nous, ce qu'on dit aux gens qui nous posent la question, c'est si vous avez la capacité de négociation parce que vous n'avez pas de difficulté à emprunter et que vous êtes face à des gens qui commencent à être en difficulté, ce qui est pas, y a pas beaucoup de cas de difficulté, hein, mais bon, si tu peux faire un coup de fusil, oui, évidemment, la question se pose pas, il faut y aller, parce qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur les taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt, dans l'absolu, 4%, c'est pas délirant. Et puis de toute façon, n'oublions pas que si tu empruntes aujourd'hui à 4%, que les taux baissent à 2%, tu pourras renégocier. On l'a fait 100 fois. On a renégocié jusqu'à 1,2 ou 1%. Donc, on refera la même chose. Mais je crains pour l'instant, enfin, je crains, tant mieux pour les détenteurs de biens immobiliers, pour l'instant, je ne vois pas de fire sale, je ne vois pas de panique à la vente. Pourquoi ? Parce que déjà, beaucoup de gens qui ont des biens immobiliers les ont avec des crédits qui sont à des taux tellement bas qu'ils n'ont pas envie de vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu te dis, tiens, est-ce que je vends pour acheter ? Ah oui, tu dis, mais attends, là, j'ai un crédit à 1,5%, 1,4%. Est-ce que je vais racheter plus petit ou plus grand à 4%? Bah, tu vas réfléchir. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de panique à la vente. Mais si le signal, c'est de dire soit tu arrives aujourd'hui à négocier dans des conditions qui sont des conditions fantastiques. Je ne crois pas que ce soit possible, mais pourquoi pas, hein, il doit y toujours avoir des opportunités, soit d'attendre qu'il commence à y avoir des fire sales. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est ce que tu dis tout à l'heure, que les taux baissent suffisamment pour que les gens se disent « bon, ben, c'est pas grave si je vends, même si je rachète plus petit, j'emprunterai à des taux qui seront raisonnables. »
Ça fait plus de 30 ans et plus de 40 ans que tu investis sur les marchés.
Ouais.
C'est quoi le conseil que tu aimerais donner à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui veulent mieux gérer leur patrimoine ?
Diversification et allocation. C'est-à-dire, pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que je pense que tous les gens qui pensent qu'ils vont acheter le Bitcoin au plus bas, le vendre au plus haut, la bourse au plus bas, le vendre au plus haut, l'immobilier au plus bas, se plantent. On n'a jamais créé de richesse, sauf Warren Buffett et quelques personnes. Je pense que la clé, surtout en ce moment où on a la possibilité, on revient au début de notre entretien, d'avoir toutes les classes d'actifs actives. La clé, c'est la diversification. On a une période qui est une période d'opportunité extraordinaire. prenez bêtement 25% de votre argent sur des actions, 25% ou 30% sur des obligations, 10 à 15% sur du private equity, 10 à 15% sur de la pierre papier et le solde en cash, en fonds en euros et partez en vacances pendant 3 ans. Parce qu'il ne faut rien toucher à son allocation. C'est-à-dire que donc la clé, le seul conseil que je donne, et ça c'est le fruit de mon expérience, parfois douloureuse, hein, mais le seul conseil que je donne, c'est jamais essayer de timer quoi que ce soit, mais surtout d'avoir cette vision qui est toujours une vision globale. Celle-là, elle ne peut jamais se planter. Si tu as l'allocation que je t'ai donnée tout à l'heure, tu ne vas jamais te planter.
Donc ça veut dire qu'un trader meurt des fois?
Ça veut dire qu'un trader ne meurt jamais, mais ça veut dire qu'il continue à faire des conneries.
Merci beaucoup Marc.
Je t'en prie, merci de m'avoir reçu.